Le premier journal de la matinée par Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les taxis remettent ça, deuxième jour de mobilisation contre les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur comme Uber. Et pourtant, Matignon a fait un geste hier en nommant un médiateur. Le Premier ministre Manuel Valls a proposé une concertation sous l'égide du député socialiste Laurent Grand-Guillaume. À prévoir donc aujourd'hui encore des perturbations de circulation, surtout en région parisienne, près des aéroports et à la porte Maillot. Hier, les manifestations, parfois violentes, se sont terminées par un blessé et 24 interpellations. La SNCF, elle, a-t-elle faussé les témoignages de ses agents dans l'enquête sur la catastrophe de Brétigny-sur-Orge? Ce sont les accusations portées aujourd'hui dans le Canard enchaîné. La SNCF est mise en examen depuis le déraillement d'un train en 2013. L'accident avait fait 7 morts dans la gare francilienne. Et selon l'hebdo satirique, les cheminots entendus comme témoins par la justice ont été largement briefés avant par les services juridiques de la SNCF. Le récit de Thomas Séchier.
Je t'invite à ne rien apporter aux policiers. Tu viens avec rien. Il faut attendre leur demande. Voilà le genre de conseil que le service juridique de la SNCF aurait prodigué à un cheminot juste avant son audition devant les enquêteurs. Des propos rapportés par le Canard enchaîné, donc, qui se base sur des écoutes réalisées par la justice sur plusieurs dirigeants de la compagnie. Des écoutes qui mettraient en évidence un double langage. Par exemple, ce cadre qui s'exclame au téléphone au sujet d'une pièce qui aurait causé le déraillement du train. Elle est pourrie, cette pièce. Mais c'est pas la seule à Brétigny. Elles sont toutes dans cet état. Or, la version qu'il aurait livrée devant les juges est nettement plus édulcorée. Quand je dis pourri, ça ne veut pas dire en dehors des normes, ça veut dire vieux, toujours selon le Canard enchaîné. Hier soir, la SNCF a réagi, elle ne dément pas l'existence de ces briefings pour les salariés qu'elle considère comme légaux et légitimes. Pour les salariés qui le souhaitent, en aucun cas, il y a eu des pressions sur eux. On rappelle que la semaine dernière, un nouveau rapport d'experts pointait du doigt à un défaut de maintenance à l'origine de la catastrophe.
La mortalité sur la route, cette fois en hausse. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dévoile le bilan pour l'année 2015. Si le nombre d'accidents corporels baisse, le nombre de décès augmente de 2,5% avec 3464 personnes tuées l'an dernier. C'est la deuxième année de suite en hausse et ce, malgré plus de 80 nouvelles mesures l'année dernière, comme les radars embarqués, la limitation à 80 km/h sur certains axes ou encore un taux d'alcoolémie à zéro pour les jeunes conducteurs. Bernard Cazeneuve, invité aujourd'hui exceptionnellement du Conseil des ministres allemand. Il se rend à Berlin pour réaffirmer l'importance de la coopération franco-allemande, en particulier sur la lutte antiterroriste ou la crise migratoire. À Berlin, les précisions de Sophie Parmentier.
Il est rarissime qu'un ministre français soit invité à participer à un conseil des ministres allemands en dehors des traditionnels conseils des ministres franco-allemands qui se tiennent deux fois par an, tantôt à Paris, tantôt à Berlin. Mais ce matin, à la chancellerie allemande, Bernard Cazeneuve sera l'unique représentant du gouvernement français et il sera un invité de marque. Il recevra d'ailleurs l'une des plus hautes distinctions allemandes, la Grande Croix du Mérite avec étoile et cravate. C'est son homologue allemand Thomas de Maizières qui la lui remettra. Ces derniers mois, les deux ministres ont souvent parlé d'une même voix et Bernard Cazeneuve, qui est devenu l'un des leaders européens dans la lutte contre le terrorisme, est venu marteler une fois de plus à Berlin que la France et l'Allemagne devaient être plus que jamais unies, d'une part pour faire face à la crise migratoire, d'autre part pour rendre la lutte antiterroriste plus efficace. Nous avons vraiment besoin que le contrôle extérieur aux frontières de l'Union européenne soit maintenant effectif, a insisté Bernard Cazeneuve en arrivant à Berlin.
6h34 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier à l'étranger. Le processus de paix pour la Syrie avec cette première étape déjà très délicate, le choix des parties autour de la table.
Oui, les pourparlers sont prévus vendredi à Genève, mais les participants doivent se mettre d'accord sur la présence de chacun. Le Haut Comité des négociations, le HCN, réunissant des formations clés de l'opposition au régime de Bachar al-Assad, insiste pour être le seul représentant de l'opposition. Or, hier, des figures de l'opposition n'appartenant pas au HCN ont déclaré avoir reçu une invitation pour Genève. La Turquie, elle aussi, avertit si les Kurdes syriens participent aux discussions, elle se retire du processus. Le ton est monté d'un cran entre l'ONU et Israël. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a appelé hier l'État hébreu à geler la colonisation de la Cisjordanie. Ces initiatives provocatrices, a-t-il déclaré, ne peuvent que faire monter encore la tension et nuire à toute perspective de règlement politique. Fermez les guillemets. Le premier ministre israélien a répliqué dans la foulée en l'accusant d'encourager le terrorisme. Sur le terrain, les incidents se poursuivent, en particulier dans ces colonies. 3 attaques en une semaine. Écoutez ce reportage d'Étienne Monin dans la colonie de Tekoa. Une femme enceinte a été prise pour cible la semaine dernière.
Tekoa ne ressemble pas à ces colonies bunkers qu'on voit souvent dans les territoires occupés. C'est un village religieusement et culturellement mixte qui compte 850 familles. L'attaque de la semaine dernière a créé un choc. Cela valide le fait que les colonies soient devenues des cibles et cela fragilise le modèle de coexistence avec les Palestiniens défendu par certains ici, parmi lesquels Tamar Castelnuovo, franco-israélienne installée depuis plus de 30 ans.
C'est vrai que finalement on habite tous là et que ça serait normal et on devrait y arriver, on y est arrivé à certains endroits de vivre ensemble. Aujourd'hui, on met des barrières, aujourd'hui, on a peur. Ce qu'on faisait avant de prendre des Palestiniens en stop, on ne va pas le faire parce qu'on a un peu peur. On regarde derrière soi et on fait attention et on met un gardien pour quand il y a des ouvriers qui arrivent. Ça met des barrières, mais je crois qu'il suffirait de très peu de temps pour que ces barrières tombent.
Depuis l'attaque, beaucoup d'habitants ferment leur maison à clé le soir et les travailleurs palestiniens entrent au compte-gouttes pour la construction. Sur le parking qui leur est réservé devant la colonie, il n'y a que 4 voitures.
Le reportage d'Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. La France parie sur l'Iran. Le président iranien Hassan Rouhani est reçu à partir d'aujourd'hui à Paris, comme à Rome, où le dirigeant de la République islamique a fait étape ces derniers jours. Le séjour de Rouhani devrait donner lieu à la signature d'importants contrats commerciaux. Déjà annoncé, celui avec Airbus, 114 appareils commandés. Direction pour terminer ce journal, le Brésil et la menace du virus Zika, un virus transmis par des moustiques. Et s'il n'est pas mortel, il est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes, car responsables de malformations fœtales. À Rio, la mairie s'inquiète à quelques jours du carnaval et à 6 mois des Jeux Olympiques. Elle s'est donc lancée dans des grandes opérations très médiatiques pour rassurer les touristes étrangers. C'est un reportage d'Anne Vigna.
La proposition de la mairie de Rio était un peu inédite. Convier la presse à assister aux pulvérisations d'insecticides au Sambódromo, le lieu officiel du carnaval. Mais l'objectif était clair, rassurer le million de touristes attendus la semaine prochaine et qui auraient pu lire dans la presse que le carnaval est un cocktail explosif pour la propagation du virus Zika. Une vingtaine d'hommes en combinaison et armés de soufflets à moteur ont donc pulvérisé les bancs devant les caméras. Une opération communication de la mairie pour son carnaval mais aussi pour les futurs Jeux Olympiques, comme l'a bien expliqué Marcos Ferreira, porte-parole de la mairie de Rio.
La vigilance sanitaire dans les installations olympiques a commencé l'année passée. Chaque installation, une fois terminée, reçoit un traitement sanitaire et à partir d'avril, toutes les installations qui accueillent les Jeux Olympiques recevront des traitements comme le Sambódromo aujourd'hui. Et ce pendant 3 mois. Le problème sera minimisé.
Le virus Zika sera sans doute en effet moins virulent pendant les Jeux Olympiques qui se dérouleront en plein hiver. Mais les cas de dengue sont plus nombreux à Rio à partir de février et Zika va suivre la même courbe selon les spécialistes. Le carnaval de Rio ne se limite pas au Sambódromo mais envahit toute la ville avec les groupes de musiciens. Une fête qui est depuis toujours impossible à aseptiser.
Anne Vigna au Brésil, on termine par le temps de ce mercredi en France. Le retour de la pluie sur le tiers nord-ouest, ailleurs nuages et éclaircies. Les températures, on attend encore de la douceur cet après-midi avec 13 degrés à Strasbourg et à Chambéry, 13 aussi à Brest, 14 degrés à Marseille, 15 à Paris et 19 à Bayonne, Guillaume Erner.